Pour parler sport avec vous, Samuel, d'abord bonjour, comment ça va-t-il bien ?
Bonjour Didier, ça va bien et vous ?
Moi ça va bien et ça va même très bien d'après ce que je lis sur le petit rapport que vous m'avez envoyé. Eh bien on va parler foot et foot israélien avec la victoire historique d'Israël face au Japon. Ce n'est pas sans rappeler une victoire belge également historique il y a de cela 5 ans à peine. Une victoire historique face au Japon lors de la Coupe du Monde des moins de 20 ans qui se déroule et vous en parlez la semaine dernière, qui se déroule actuellement en Argentine à la place de l'Indonésie qui refusait qu'Israël ne vienne sur son territoire.
Absolument, c'est en Argentine que tout ça se passe et comme vous l'avez rappelé lundi dernier, je vous avais parlé de l'entrée en lice de l'équipe d'Israël dans ce mondial des moins de 20 ans, une compétition que les Israéliens découvraient pour leur première participation. La première ne s'était pas idéalement déroulée, puisque les hommes d'Ofir Haïm s'étaient inclinés 2-1 face à la Colombie. Il leur restait donc alors deux matchs pour atteindre potentiellement les huitièmes de finale de la compétition. Mercredi, ils ont tout d'abord croisé le fer avec l'équipe du Sénégal, et ils n'avaient pu faire mieux qu'un match nul 1-1.
C'était pourtant pas mal, hein.
Ouais, mais ils avaient pourtant ouvert la marque peu avant l'heure de jeu, mais ils s'étaient relâchés et avaient été rejoints à 10 minutes du terme. Les choses avec une défaite et un nul semblaient donc bien mal engagées et on commençait à se demander si le fantastique parcours qu'ils avaient vu atteindre en la finale de l'Euro des moins de 19 ans l'an passé n'allait pas s'avérer être un exploit sans lendemain. Pour leur dernière rencontre de la phase de groupe, la tâche s'annonçait donc compliquée face au Japon. Le Japon est un habitué de la compétition puisque les Nippons participent à leur 11e phase finale de Coupe du Monde des U20 et ont même été finalistes de l'épreuve en 1999. Avant la rencontre qui se disputait donc samedi à l'Estadio Malvinas Argentinas dans la ville de Mendoza, les Japonais occupaient la deuxième place du groupe et étaient donc en position favorable pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition. Et c'est donc avec une certaine pression que les Israéliens ont abordé cette rencontre et cela s'est ressenti dès le début de la partie qui aurait pu tourner au cauchemar sans trois parades décisives de Tomer Tsarfati, le gardien israélien. Avant la 7e minute, il a fait trois parades dont une double parade magnifique dès la 5e. Les Japonais allaient néanmoins finir par faire sauter le verrou israélien dans les arrêts de jeu de la première période et rentrer au vestiaire avec une avance d'un but. La tâche déjà difficile allait encore davantage se compliquer lorsque, à la 68e minute, Ran Binyamin, entré seulement 7 minutes plus tôt, récoltait un deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion. On voyait dès lors assez mal comment les 10 Israéliens, menés d'un but par une solide équipe japonaise réduite à 10, allaient pouvoir faire perdurer le rêve de tout un pays.
Et pourtant, et c'est là la glorieuse incertitude du sport et la magie du foot en particulier, les Israéliens sont parvenus à renverser la vapeur.
Oui, alors ça n'a pas été facile, ça n'a pas été très académique non plus, mais ils l'ont fait. C'est tout d'abord Aaron Roy Nawi Nabi qui, à la 76e minute, allait égaliser d'une manière assez baroque, hein, beaucoup de billard. À la suite d'un coup franc israélien repoussé par le mur, Eli Madmon, le capitaine israélien, décochait une frappe puissante, une frappe qui semblait aller sur la droite du gardien, mais elle rebondissait sur un japonais pour finalement aller complètement à l'opposé. Elle changeait de direction et était finalement reprise de la tête de près par Nawi Nabi, qui était le seul joueur attentif sur l'action. Tout le monde se regardait un peu, lui il a mis sa tête et il a marqué. L'espoir regagnait donc les cœurs des Israéliens qui, à 15 minutes du terme, étaient certes revenus à égalité, mais ils devaient encore marquer pour espérer poursuivre leur épopée argentine. Et alors, comme dans tous les bons films à suspense, c'est sur la fin que tout allait se démêler. La délivrance allait arriver à la 91e minute dans les arrêts de jeu. Lorsque Omer Senior, à 3 mètres du but, voyait le ballon lui parvenir, il bénéficiait d'une ingénieuse talonnade de Tourgeman et d'un mauvais alignement de la défense japonaise. Pour délivrer tout un pays, je vous propose d'écouter la réaction du commentateur anglais sur le coup.
Lemkin, chance to have a go. Lemkin, oh, flick through, goal! Goal, Israel! They are heading through! This is incredible! Senior scores and Israel lead! The 10 men have turned it around!
Effectivement, ouais. On peut s'imaginer la joie qui a dû s'emparer de tout le groupe israélien à l'issue de cette victoire historique, puisqu'on le rappelle, pour leur première participation à la Coupe du Monde des moins de 20 ans, eh bien les Israéliens, ils disputeront, ça y est, c'est entériné, les huitièmes de finale.
Oui, alors à l'issue du match, le sélectionneur israélien Ofir Haïm, il était en larmes, mais il était fou de joie, il parlait d'une victoire héroïque et même du plus grand match de l'histoire du football israélien, carrément. Je veux dire à tout Israël que nous vous aimons et que nous l'avons fait pour vous, a-t-il déclaré au micro de la radio publique israélienne Kan. Nous savions que tout le monde voulait que nous le fassions. J'ai dit aux joueurs que tout l'État d'Israël était derrière nous. Je n'ai pas de mots, ces gars ont tellement de cœur et d'âme. Le ciel est notre limite. Nous n'avons peur d'aucune équipe. Alors tant mieux d'avoir peur d'aucune équipe puisque l'aventure se poursuit pour les jeunes pousses israéliennes qui ont rendez-vous demain, mardi, à minuit heure d'Israël, donc 23h en Europe, face à l'équipe d'Ouzbékistan. Alors sur le papier, celle-ci ne fait peut-être pas très peur, elle n'est pas forcément excitante non plus sur le papier, mais sachez qu'il s'agit quand même de l'équipe championne d'Asie de la catégorie. Ils ont fini donc champion là où les Japonais ont fini quatrième, donc ça, la tâche s'annonce difficile. Et les Ouzbeks avaient d'ailleurs, lors du match d'ouverture, inquiété l'Argentine puisqu'ils avaient perdu que 2-1, mais avaient ouvert la marque. Les Israéliens peuvent donc encore rêver un parcours exceptionnel et pourquoi pas reproduire ce qu'ils avaient réalisé l'an passé en Slovaquie lors de l'Euro des moins de 19 ans où ils avaient explosé à la face du monde du football en atteignant la finale de la compétition, seulement battue en prolongation par l'équipe d'Angleterre. Il faut vraiment pas minimiser cet exploit israélien parce que sachez que avant cette participation à la Coupe du Monde, donc des moins de 20 ans certes, mais il n'y a eu qu'une seule participation israélienne à une compétition internationale FIFA. C'était la Coupe du Monde 1970, avec un seul but marqué, c'était face à la Suède, c'était Mordechai Spiegler. Wow. Et donc voilà, ça fait quand même 53 ans, j'ai un peu bossé aussi, et puis il a joué dans un club qui m'est cher.
C'est pas vrai.
Oui.
champion de France.
Champion de France.
Depuis vendredi.
Exactement. Donc voilà, c'est mardi soir, et écoutez, on va pas s'emballer, mais ce serait un bel exploit, et ça se présente bien. On commence par une défaite, un match nul, puis une victoire à l'arraché, puis pourquoi pas une victoire sur les champions d'Asie.
Arrêtez, vous nous remuez le couteau dans la plaie de la Belgique au Qatar.
Ah, il faut laisser ça de côté, voilà. Mais en tout cas, huitième de finale, et pourquoi pas un petit peu mieux encore.
Ah ben, on croise les doigts pour eux et on suivra ça attentivement, grâce à vous notamment. Vous parlez de miracle et de la glorieuse incertitude du sport. Que dire de ce week-end footballistique en Europe avec une finale de championnat d'Allemagne absolument dingue,
incroyable,
à distance entre le Borussia Dortmund et le Bayern de Munich, qui a vu finalement le Bayern de Munich devenir champion.
Ouais, les Allemands normalement sont le Bayern de Munich a pris l'habitude d'être champion. Voilà, c'est la 11e. Mais là, on sentait qu'ils c'était potentiellement l'année où ils allaient craquer. Ils avaient perdu leur fauteuil de leader la semaine passée il avait cédé à Dortmund, et Dortmund était donc dans une situation idéale puisqu'ils jouaient Mayence à domicile alors que le Bayern se déplaçait à Cologne, et le Bayern devait donc faire un meilleur résultat que Dortmund. Le Bayern a réussi à l'emporter, c'était pas facile, c'est
91 minutes.
Voilà, Moussiala qui est entré, qui a marqué, qui a délivré le Bayern. De l'autre côté, on jouait au Signal Iduna Park à Dortmund. On pensait pas que ça allait être si compliqué pour les joueurs du Borussia. Ils ont été menés, ils ont réussi à revenir au score, mais ils se sont arrêtés à 2-2 et donc perdent.
Ont raté un pénalty.
Le pauvre Sébastien Haller.
Haller,
c'est exactement. Et donc, à la différence de but, c'est le Bayern Munich qui reste champion d'Allemagne, qui conserve son titre. Ça, c'était en Allemagne.
Mais que dire de la Belgique ? Voilà. On va vivre un dimanche.
Dimanche prochain, ça risque d'être exceptionnel, chaud. On en parlera ce soir en long et en large.
Absolument.
On joue la prolongation. Mais sachez que l'Antwerp... Il y a trois équipes
qui peuvent revendiquer le titre de champion.
Absolument.
Et qui doivent gagner pour l'être.
Exactement. Ça va être formidable. Et il y aura peut-être un juge, une équipe qui va départager, qui va aider peut-être à départager les autres, le club de Bruges qui donc se déplacera
à l'Union,
tandis que Genk recevra l'Antwerp, et ça va être donc toutes les trois équipes, Genk, l'Antwerp et l'Union doivent l'emporter pour espérer être champion. il faut dire que l'Antwerp conserve la main puisque eux ils savent que s'ils gagnent, ils seront champions.
Mais ils doivent gagner à Genk.
Mais ils doivent gagner à Genk et ils restent quand même sur une défaite et un nul alors qu'ils ont mené, ils avaient ça en main. Il y a Roland Garros en ce moment, j'ai l'impression pour moi le Borussia Dortmund, c'est un peu un joueur qui vient de perdre la balle de match dans un tie-break et l'Antwerp, ils avaient un break d'avance et ils se sont fait rattraper et voilà, ça va être
la peur de gagner.
Exactement. Donc la semaine prochaine, ça va être un dimanche de folie en Belgique.
Eh bien, ça vaudra son pesant d'or. Merci beaucoup, Samuel, d'être venu nous parler sport ce matin. Ah, attendez, mon cher Blaise.
Si vous me permettez, Didier.
On sait que vous ne connaissez rien au foot.
Justement, les championnats m'intéressent peu en ce moment parce que je trouve que les dénouements ne sont pas forcément très, très enthousiasmants. En Allemagne et en Belgique, c'est pas mal, mais... Vous parliez de la Coupe du Monde U20, Samuel. J'ai regardé le match France-Gambie des U20. Et c'était quelque chose. Un vrai marasme.
Ah ouais. Ils ont gagné tout de même les Bleus.
Ils ont perdu. Ils sont éliminés en poule.
Israël a donc fait mieux que la France.
Mais ils avaient déjà fait mieux que la France l'année passée puisqu'ils les avaient battus en demi-finale. Ça, c'était le vrai exploit. Mais...
Et en fait, l'histoire, c'est que comme ça n'est pas dans le calendrier FIFA, cette Coupe du Monde U20, les clubs français n'ont pas laissé leurs joueurs moins de 20 ans partir à la Coupe du Monde, donc c'est des joueurs qui évoluent au 4e, 5e échelon.
Voilà, ils ont fait venir les remplaçants des remplaçants.
Ils ont une excuse pour pas être champion
Exactement.
Du monde des moins de 20 ans.
Hein. Voilà, on peut pas tout gagner.
Hein. Non, c'est vrai aussi, sinon ils auraient le seum. Bien. Merci beaucoup.
Et on rappelle que c'était les 30 ans de la victoire de l'OM.
Et de Yannick Noah, et
Yannick
40 ans.
40 ans.
40
voilà.
ans. Alors, eh oui.
Pour le Garros.
Mon Dieu, les années en 3, c'est bon pour la France.
Ouais.
Merci Samuel.